de détresse. Leur monocoque est victime d'une voie d'eau importante. Leur transat en double Jacques Vabre est donc terminée pour eux. Vous écoutez France Inter, il est 15h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet tout de suite.
Vous savez ce que c'est que la notation triple A ?
Les agences de notation, les marchés financiers, le G20. Mais c'est qui ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur avis ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces autorités autoproclamées ? Elles n'ont pas été élues par le peuple. Au nom de quoi on les laisse diriger nos vies ? Elles sont politiquement illégitimes et n'ont rien à nous imposer. Il y en a marre de la dictature du fric. On veut une vraie démocratie. Fabrice de Paris.
Salut Daniel. Quelle hypocrisie et quel mauvais film que ce G20. Couronné par la prestation Obama-Sarkozy se congratulant. Oh, que ne ferait-on pour être élu ? Les bras m'en tombent, surtout de la part d'Obama. Gilles Jacob devait avoir des boutons de voir son palais envahi par ces mauvais acteurs. Il ne faut plus de paradis fiscaux, dit Sarkozy. Il faut être béné pour le croire, car tous ces politiques qui se gargarisent de bonnes paroles en défenseurs de la liberté et des révolutions arabes n'hésitent pas à envoyer leur CRS contre ces petits voyous d'indignés qui osent contester leur politique et demander une taxation sur les transactions financières. Et inutile de vous rappeler la méthode si tendre des CRS qui n'a pas changé depuis 68. D'ailleurs, ces dirigeants se moquent bien des peuples. La preuve en est du peuple palestinien trimballé depuis 60 ans. Et l'Amérique d'Obama s'apprête à opposer son veto contre l'adhésion des Palestiniens à l'ONU lors du deuxième vote. Et la France va s'abstenir. C'est scandaleux. J'encourage fortement tous les indignés à ouvrir les yeux des résignés. Une vieille femme de 76 ans, pleine d'enthousiasme pour la lutte.
Bonjour, je suis Vincent Digné à La Défense. Il est moins de 14h, on est samedi. Il y a 30 personnes environ qui sont encore sur place, qui ont dormi sur place. Et il y a 27 camions de CRS. Rien que ça, ça m'énerve. On paye nos impôts pour payer des putains de CRS surarmés, suréquipés. Je désespère. Salut.
Bonjour, c'est Frédéric de Brest. Eh bien, l'école Freinet de Brest, la seule école publique qui propose une pédagogie alternative sur Brest, va fêter ses 40 ans et on organise une conférence sur le thème pédagogie Freinet Montessori, le désir d'apprendre. Alors, si vous voulez réfléchir sur le rôle de l'autonomie dans la construction de l'enfant, le rôle de la coopération dans la construction du citoyen, la place que l'institution laisse à ses pédagogies alternatives, bah, rejoignez-nous le vendredi 18 novembre à 18h, amphi 2 de la Fac des Lettres et Sciences Humaines Victor Ségalin à Brest. Merci et à très bientôt.
Salut Daniel, c'est Florent de Metz. Un pull Lafigue et Holster, 250 euros. Un pot de putella rempli d'huile de palme, 4,29 euros. Un paquet de spaghettis Dalila, 1,75 euros. Un jean Dervis 501, 85 euros. Je ne parlerai pas de l'interview lamentable de Rocard chez Cohen ce matin, mais de choses que l'on entend régulièrement sur la même tranche horaire. Depuis des années, les chantres de la mondialisation passent leur temps à essayer de nous faire croire que relocaliser en Europe entraînerait une augmentation des prix insupportable pour nos pauvres Européens. Ou nos Européens pauvres, je ne sais plus vraiment. Or, cela fait des lustres que le prix d'un bien n'est plus fonction de son coût de production, mais qu'il est défini en fonction de prix que les clients sont prêts à payer pour acquérir ce bien. Relocaliser ne pourra donc pas entraîner d'augmentation des prix, mais bien une réduction des marges. Ils n'ont pas appris cela en économie, les chroniqueurs de chez Cohen ? Pour ma part, c'était au programme de mon bac G, il y a 25 ans. C'était Florent de Metz.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Bon, c'est quand même mieux de vous adresser directement aux émissions, aux journalistes et aux animateurs des émissions concernées, plutôt qu'en passer par là-bas si j'y suis, mais je pense que c'est pas mal quand même. Ces critiques sont toujours bienvenues. Aujourd'hui, je voulais te dire un mot sur l'école Freinet. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue ces écoles Freinet qui ont l'idée de développer l'autonomie. Il faudrait qu'on parle de ça un jour, développer l'autonomie chez les enfants, mais pas seulement chez les enfants. Aujourd'hui, on part en Palestine. Vous vous souvenez qu'on était là-bas en novembre, on était à Tel Aviv avec les indignés, ceux qui campaient, qui ont campé pendant des semaines et des semaines, pour s'indigner des inégalités, des politiques ultra-libérales du gouvernement israélien qui creuse des inégalités. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des grèves en Israël, un mouvement social important dans ce pays. Et puis vous vous souvenez aussi qu'on était à Ramallah, on était en Cisjordanie, au moment même où le président Mahmoud Abbas était aux Nations Unies pour demander la reconnaissance de son État palestinien par les Nations Unies, suivi, vous en souvenez, d'un désaccord ou un désaveu du président américain. On annonçait aussi que la France ne marcherait pas dans ce coup-là. Mais depuis, vous êtes sans doute au courant, l'État palestinien a été reconnu par l'UNESCO, ce qui n'est pas rien du tout pour ce pays. Évidemment, cette reconnaissance a été suivie de représailles des États-Unis envers l'UNESCO, de représailles du gouvernement israélien envers l'autorité palestinienne par l'augmentation des constructions à Jérusalem-Est, par toutes sortes de représailles. N'empêche que, voilà, désormais, l'État palestinien est reconnu, au moins fait partie de l'UNESCO, ce qui est une victoire diplomatique qu'on pourra juger assez mince, mais qui a le mérite, évidemment, d'exister. Aujourd'hui, on continue à Ramallah, dans cette ville étonnante, étrange, qui en très peu de temps, en 2 ans, 3 ans, a complètement changé et est devenue une ville absolument bling-bling, étincelante, un petit Dubaï, et qui correspond plus du tout à l'idée qu'on se fait, aux images que l'on voit quand on dit le mot Palestine. On voit tout de suite du drame, on voit des barbelés, on voit des murs, on voit des gosses qui jettent des pierres, on voit des islamistes qui sont en train de brailler, ou des peintures, des affiches représentant des martyrs. À Ramallah, tout ça, c'est terminé. Ramallah est une formidable vitrine aujourd'hui, une vitrine tout à fait bling-bling. Évidemment, on a eu envie de savoir ce qui se passait derrière cette vitrine. Et c'est notre sujet du jour, cette nouvelle série que nous vous proposons. Palestine, dans quel état ? Et aujourd'hui, donc, on commence par Ramallah, une cage dorée. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Eh bien, aujourd'hui, quelle journée ? Bah oui, quel jour on est ? Le 7. Le 7 de chaque mois, qu'est-ce que c'est ? Eh ben le repère de Nancy, à 7h du soir. Eh ben ce soir, lundi, le thème sera les banksters. Eh oui, ça va flinguer à tout va aujourd'hui, genre les tontons flingueurs. Allez, à mort les banksters. Heidi !
Les salariés de Fralib à Gémenau sont toujours en grève. Ils sont toujours actuellement dans leur usine. Ce matin, ils ont eu la visite de 20 vigiles qui se sont dirigés vers l'entreprise pour bloquer l'arrivée des salariés ce matin, vigiles envoyés par la direction de Fralib. Et le gouvernement est complètement absent. Voilà, ça c'est une réalité. Hein. D'ailleurs, elle est une réalité qui touche, je crois, pas mal de régions de France. Sur ce, fermons la parenthèse et bonne semaine à tous. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Attention, le prochain rendez-vous du Café Repère de Saint-Péray en Ardèche aura lieu ce lundi 7 novembre. C'est toujours à 20h et c'est toujours à l'hôtel Badet. Pour cette soirée, nous parlerons de la dette avec un intervenant du Mouvement pour une éducation populaire de Lyon qui viendra nous parler du sujet. Je compte sur vous, c'est un sujet qui nous concerne tous. Venez nombreux.
PalestineIsReady.com. What do you call a place where people take pride in what they build and grow?
Comment appelleriez-vous un endroit où les gens sont fiers de ce qu'ils bâtissent et font grandir?
Learn, play and pray. What do you call a nation that is ready to take its place in the world?
Comment appelleriez-vous une terre où les gens sont liés par la manière dont ils apprennent, jouent et prient? Comment appelleriez-vous une nation qui est prête à prendre sa place dans le monde? Cela s'appelle la Palestine. Et quand vous verrez cet endroit, vous verrez que nous sommes prêts à devenir un pays.
PalestineIsReady.com.
On nous reproche souvent là-bas, si j'y suis, de voir toujours le côté noir des choses, le côté dramatique, politique, social, etc. Là, on est à Ramallah. Et bien voilà quelque chose d'entièrement différent. C'est le centre d'information touristique de Ramallah. Il existe en fait depuis 2 semaines un centre, un office de tourisme, voilà le mot que je cherchais, pour Ramallah. C'est-à-dire que maintenant, si quand vous voulez vous balader pour vos vacances, pour vos loisirs, pour vos voyages de noces, ben vous pouvez tout à fait venir à Ramallah. Alors là, on n'a pas beaucoup de chance parce que c'est fermé, c'est
donc
pas
c'est,
la bonne heure.
C'est une vieille maison qui était
très belle,
restaurée.
Très belle vieille maison.
Très vieille maison de famille chrétienne, d'où la croix qu'on voit,
ouais, je vois au-dessus,
de la porte.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors, dis-moi? Qu'est-ce qu'on peut visiter? Parce que nous, il faut qu'on est là pour conseiller les auditeurs.
Bah, venez avec moi et je vais vous montrer sur la carte.
Ouais, raconte-nous un petit peu ce qu'on peut faire. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des signes de dollars hein, avec le S et les deux barres de dollars un petit peu partout. Voilà, donc si vous êtes perdu ami touriste, vous saurez où sont les banques. Dans Ramallah. Et là, ça c'est l'attraction
Ramallah,
touristique, c'est presque la première attraction touristique. J'en juge par le nombre de banques qui sont indiquées.
Et de restaurants. On dit qu'il y a tous les mois, il y a un restaurant ou un café qui s'ouvre à Ramallah.
Donc pour les restaurants, vous pourrez manger, vous pourrez danser, vous pourrez acheter de l'essence, vous pourrez mourir. Ah non, ça c'est l'église, Church of Hope, vous pourrez aller à l'église luthérienne. Mais il faut que vous sachiez qu'en venant à Ramallah, tout ce que vous allez vivre, voir, partager, manger, dormir, respirer, est sous contrôle israélien. Absolument. Tout est sous contrôle d'Israël. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, Israël peut couper l'approvisionnement en eau, en électricité, en matières premières, en tout ce que vous voulez. C'est le contrôle total. Par contre, 80% de ce qui est consommé à l'intérieur de Ramallah est d'origine israélienne. C'est-à-dire que vous allez, en fait, ce que vous allez dépenser là rapportera avant tout à l'économie israélienne. Donc vous pouvez très bien, si vous aimez Israël, si vous soutenez Israël, venez à Ramallah. Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec Guy Ventil, Palestine, dans quel état? Ramallah, une cage dorée.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous voilà dans l'endroit le plus chic, l'un des endroits les plus chics de Ramallah, Padico House en transe. Et là, ce bistrot-là, Zaman, tu me dis que c'est l'endroit le plus chic,
le plus chupé.
Bling bling.
C'est plutôt vraiment la jeunesse, surtout musulmane, qui ne boit pas d'alcool parce que le café ne sert pas d'alcool. Donc voilà, c'est une jeunesse huppée conservatrice.
Et on va voir qui, là? Dis-nous un peu qui tu nous emmènes voir.
On va voir le directeur général de la bourse palestinienne. Ici, à Badeco House, on va monter au 6e étage.
Bon. La grande Catherine de Russie avait un amant qui s'appelait Potemkin et qui lui servait aussi de ministre. Un beau jour de 1796, l'impératrice Catherine s'en alla visiter la Crimée. Et quelle merveille, quelle prospérité! Des villages merveilleux, des fleurs partout, des habitants charmants, chantant en travaillant et acclamant l'impératrice. Sauf que tout ça, c'était du pipeau, c'était du bidon, un décor de carton-pâte, des figurants payés, une mise en scène en trompe-l'œil signée Potemkin. Voilà pourquoi depuis on appelle village Potemkin. C'est rouerie et c'est l'heure. Et c'est à quoi on pense irrésistiblement en arrivant aujourd'hui à Ramallah. Si on dit Ramallah, Cisjordanie, Palestine, on voit des barbelés, des blindés, des Palestiniens patibulaires, des gosses qui jettent des pierres, des images de martyrs, des appels à la prière entrecoupés de survols d'hélicoptères, ou bien encore la Yasser Arafat assiégée par les tanks israéliens. Bien plus rien de tout ça. On voit des pubs pour Coca-Cola, pour des banques, des hôtels chics, des bars branchés, des restos bling-bling et des grues partout. Au-dessus des 4x4 noirs aux vitres teintées, des nanas très chic, l'iPhone collé à l'oreille à travers le voile griffé grand couturier et une jeunesse dorée. C'est ce qu'on représente régulièrement, de plus en plus régulièrement, dans tous les médias du monde. Ramallah égale égale boom, égale bulle, égale aussi frénésie immobilière. Le mètre carré a triplé à Ramallah entre 2005 et 2010. Alors, miracle ou mirage? On se fait assez vite une opinion, une intuition en tout cas. Mais faut-il encore aller le vérifier? Comment, en si peu de temps, ce pays, cette ville en tout cas, cette capitale de la Cisjordanie, cette capitale d'un État qui n'existe pas, a pu se développer de cette façon. On se dit, ben, après tout, depuis tant d'années, depuis 1947, les Palestiniens ont tout essayé. Ils ont essayé la lutte armée, ils ont essayé la diplomatie, ils ont essayé le marxisme, ils ont essayé l'islamisme, ils ont essayé... ça n'a pas abouti. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas leur État. Mais ils s'accrochent. Ils ne lâchent rien, ces sacrés Palestiniens. Et là, soudain, en assez peu de temps, tout a changé. Soudain, c'est cette vitrine clinquante et qui baigne dans le fric, peut-on dire. Alors on se dit peut-être qu'après tout, ça peut être ça, la solution, l'État qu'on obtiendrait par l'argent. Mais d'où vient cet argent qui nous entoure quand on est à Ramallah? On va poser la question, on s'apercevra qu'il s'agit de l'argent de l'aide internationale. La Cisjordanie, et cette ville en particulier, reçoit une pluie de dollars provenant de l'aide internationale. Ça date pas d'hier, mais on va voir à quel point ça s'est multiplié et augmenté ces temps derniers. Et avec cet argent, eh bien, aujourd'hui, l'autorité palestinienne s'est lancée dans ce développement entre guillemets et entre parenthèses. Guillemets et parenthèses et limite de ce développement, puisque tout ici est sous contrôle israélien. Absolument tout est sous contrôle, c'est-à-dire qu'Israël peut à n'importe quel moment tout arrêter. Tout arrêter, les communications, l'énergie, l'électricité, l'eau, la communication, etc. Donc, on est dans un enfermement, on est dans une immense prison. Je sais qu'on emploie plus ce terme pour Gaza que pour la Cisjordanie, mais c'est quand même assez vrai. Et cette ville de Ramallah, eh bien, est la partie VIP de cette immense prison, une cage dorée dans laquelle nous allons faire un petit tour tous ensemble jusqu'à 16 heures dans la base. Si j'y suis, palestineisraeli.com. كبرت رام الله وصرت تشوف الناس حيا الله والله كبرت رام الله وصرت تشوف الناس حيا الله
On arrive à la bourse, dans un immeuble de 20 étages.
Palestine Exchange. Regarde, là derrière toi, il y a une photo d'Arafat à côté de celle de Mahmoud Abbas. Mais t'imagines Arafat rentrant ici dans la bourse Palestine Exchange. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu imaginer dans sa vie?
Absolument.
Qu'un jour il y aurait une bourse palestinienne, ici, à Ramallah.
Avant même qu'il y ait un État palestinien.
Avant même qu'il y ait un État.
Non, jamais. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la bourse, aujourd'hui, c'est une société complètement privée, une initiative privée, où l'État n'a vraiment pas de contrôle dessus.
Là, en somme, ce qui s'est passé, pour essayer de résumer, ce qui s'est passé depuis 2007, à partir de 2007, il y a eu un changement complet de la politique palestinienne qui a consisté à se lancer dans le business, à se lancer dans la spéculation, à se lancer dans la construction, dans le business, dans là ici la bourse, etc., avec des injections massives de fric et une économie florissante, mais totalement artificielle, avec des fonds provenant du Qatar, des différentes dotations de différents pays, etc., mais aucune activité réelle.
Bien sûr, c'est un pays qui vit essentiellement grâce aux dents des bailleurs de fonds, notamment les États-Unis, l'Europe et les pays arabes. Mais on vit, c'est une économie complètement sous perfusion, complètement artificielle.
Mais c'est ça. La plus grosse dotation par habitant de l'histoire de la coopération internationale.
Beaucoup de gens pensent que tous les bailleurs du fonds servent en partie à payer les prix d'occupation, et c'est-à-dire en fait à compenser les Palestiniens d'une occupation qui dure, puisque ces pays n'arrivent pas à mettre fin à la souffrance des Palestiniens, donc il faut payer les prix.
Et ouais. c'est ce qui est résumé dans le slogan de la bourse Palestine Exchange. Après, il y a écrit « Palestine of opportunities », la Palestine des opportunités.
Ouais. Il y a la vie de Ramallah, il y a la bulle de Ramallah, la Ramallah des cafés, des restaurants, des beaux endroits pour sortir le soir, Ramallah nocturne. Et puis il y a le reste de la Cisjordanie qui vivent en misère terrible, avec un écart qui peut aller de 1 à 100 quand il s'agit des revenus mensuels par habitant. Et ça se voit, cette disparité entre les réfugiés dans des camps de réfugiés, est-ce que vivent les hommes d'affaires à Ramallah ou les employés des ONG, le peace business. C'est incroyable, en fait, cette différence. Et on le voit. On le voit, et c'est très frappant dans un pays qui est aussi petit que la Palestine.
tout ce miracle est, un mirage.
Ce miracle, je ne dirais pas un mirage, mais c'est une volonté du gouvernement Netanyahou de montrer qu'il peut y avoir un autre exemple que le Hamas, mais aussi une volonté de corrompre la résistance palestinienne par l'argent.
Voilà, c'est une façon de dissoudre, comme dans un acide, la résistance palestinienne.
Je dirais aussi, c'est surtout par l'argent du contribuable européen et américain, essentiellement, et surtout par la lâcheté de beaucoup d'hommes politiques à travers le monde qui n'arrivent pas à mettre fin à cette occupation honteuse dont beaucoup d'Israéliens ne soutiennent pas aussi.
Voilà où nous sommes, voilà les intuitions, voilà les quelques idées que nous avons. Maintenant, il reste à mettre de la chair là-dessus, à mettre de la parole là-dessus et à rencontrer le banquier, le patron de cette banque Palestine Exchange. Il est devenu, à lui tout seul, Ahmed Awaïda, le personnage qu'on va voir tout de suite, que tout le monde va voir tout de suite. C'est plus des lutteurs politiques, ni des intellos, ni des combattants qui sortent du maquis et avec qui on va parler la nuit en secret. Non, pas du tout. On est en présence d'un brave banquier tout à fait décomplexé et qui a une analyse assez étonnante.
Les bourses d'aujourd'hui, c'est
alors,
ça.
Alors, il faut m'expliquer ce que c'est. Là, on voit trois armoires.
Voilà, avec plein de machines informatiques dedans. C'est ça, la bourse aujourd'hui. C'est pas du tout sexy. Il n'y a pas des gens qui crient, rien du tout. C'est informatisé à 100%. C'est online. C'est...
Oui. Mais les traders, ils s'assoient où?
Les traders sont devant l'écran dans leur bureau. C'est online. Il n'y a personne qui fait rien. C'est juste des traders qui tapent sur un clavier. Et c'est très, très important pour nous parce que nous pouvons faire marcher la bourse même si la pays entière est fermée. C'est-à-dire, disons demain, il y a un bouclage total de la Cisjordanie, etc. Même s'il y a une dizaine de chars israéliens dans la rue, la bourse pourrait toujours continuer à travailler. Parce que ce n'est pas juste informatisé, c'est à 100% virtuel. Donc, on peut faire marcher la bourse depuis chez soi.
Et les batteries, c'est si jamais l'électricité est coupée?
Voilà, on a des générateurs aussi, on a tout. On a prévu tout ici, parce qu'on a tout vécu, on a tout vu. Donc, nous sommes des masters des business continuity.
La continuité du business.
Ici, même s'il y a une opération militaire demain, la bourse va continuer à travailler. Pendant la guerre de Gaza, on n'était pas fermé, même pas pour une seconde, parce que c'est virtuel.
Et j'imagine que toutes les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, voient tout ça d'un très bon œil.
Bien sûr.
Vous êtes les bons élèves.
Nous sommes les très très bons élèves. Nous sommes tout à fait dans les réglementations internationales. On est vraiment vraiment dans le best practice mondial des bourses. Même la qualité de la technologie, on utilise le logiciel de Nasdaq.
PalestineIsReady.com. Alors vous avez une vue extraordinaire de votre bureau.
Jérusalem, juste là.
Là c'est Jérusalem.
Ouais, c'est Jérusalem.
Là c'est Psagote.
Ouais.
C'est la colonie qui vous surplombe et ouais. Qui vous surveille.
Qui nous surveille et qui nous bombarde quand il faut.
Donc, vraiment?
Oui, ils l'ont fait en 2002, bien sûr. Les bombardements sur Ramallah venaient surtout de Psagote.
Donc vous êtes cerné.
Nous sommes complètement cernés partout en Palestine par des colonies. C'est ça l'objectif. Ce qu'ils essayent de faire depuis 43 ans déjà.
Ouais,
et c'est pourquoi ils deviennent complètement superflus de parler d'un État palestinien tant que la colonisation continue. Vous voyez, c'est vraiment tout près. Hein. Parce que l'État hébreu donne des tas de subventions
aux
colonies et aux colons. Donc, vous savez, la coût de vie est très chère en Israël, surtout les logements. Donc, il fait en sorte que les gens viennent prendre ces maisons presque gratuit. Hein.
Ouais.
Et en plus, sur tout ce qui est service social, c'est-à-dire état d'hôpitaux, crèche pour enfants, école, etc., c'est tout à fait d'une meilleure qualité dans les colonies en Cisjordanie que l'est dans l'État hébreu elle-même. Et c'est exprès, hein. C'est surtout pour faire pousser les gens à aller s'installer en Cisjordanie au lieu de vivre en Israël.
On pourrait croire que celui qui parle est un combattant révolutionnaire, alors que vous êtes un banquier,
voilà.
Et que vous avez créé une bourse ici, en Cisjordanie.
Voilà. Je suis palestinien aussi, même si j'ai la chance de diriger la bourse palestinienne. Donc quand je parle de ce qui concerne tous les Palestiniens. Donc je suis aussi conscient de ce qui se passe et ça me fait autant de la peine que n'importe autre Palestinien.
Bien sûr, mais enfin vous ne correspondez pas du tout à l'image que les Français ont des Palestiniens. Les Palestiniens, pour l'opinion française, sont des victimes ou des combattants.
Non, je ne porte pas de kéfir, en fait, je porte une cravate. Là.
Et un costume de marque.
Voilà. Les Palestiniens sont des victimes, c'est vrai, mais aussi les Palestiniens sont ici un peuple créateur qui a soif de vivre, qui a soif de liberté. Un peuple qui a créé pas mal de structures dans beaucoup de pays, surtout les pays arabes, et qui a aussi soif d'assumer son propre destin.
Qui sont très souvent les cadres dans les pays arabes. Dans les pays du Golfe, c'est souvent les Palestiniens qui encadrent, qui font les comptes, qui s'occupent de la finance et qui dirigent.
Absolument, surtout dans les banques et les sociétés financières. Vous trouverez beaucoup, beaucoup de Palestiniens un peu partout. Et donc, la diaspora palestinienne, c'est des cols blancs un peu partout. Je ne parle pas de réfugiés dans les camps au Liban ou en Jordanie, bien sûr.
Actuellement, là, on est chez un banquier, chez un patron de la bourse de Cisjordanie.
De la Palestine, pas de la Cisjordanie.
De la Palestine.
Parce que nous avons, sur les 46 sociétés cotées, nous avons 7 sociétés qui sont à Gaza. Donc on est la bourse palestinienne, pas la bourse de la Cisjordanie. C'est très important.
Et c'est pour ça que l'indice, l'équivalent du CAC 40 du Nasdaq, ça s'appelle le Al-Quds.
Al-Quds, absolument. Al-Quds qui est Jérusalem en arabe.
Alors, expliquez-moi ce qui se passe ici. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était en 2006. Et depuis, tout a changé. Il y a une folie, une fièvre de la construction, du business. Ça va bientôt être Dubaï ici.
Mieux que Dubaï. Dubaï, c'est quand même une ville très passagère. C'est pas du tout pareil. Hein. Et on n'a pas l'argent de pétrole. Ouais. Très simple. 2006, on a eu Salam Fayyad. Elle a fait un très bon travail, elle a nettoyé le système financier de l'autorité palestinienne. Donc, ça a donné confiance déjà aux pays bailleurs de fonds. Et principalement, la boom économique en ce moment, c'est dû à l'argent des pays bailleurs de fonds, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes.
C'est ça.
Donc, c'est pas dû juste au redémarrage de l'investissement privé. Vous allez trouver surtout, c'est le fait que l'autorité palestinienne paye plus que 200-300 millions de dollars par mois aux fonctionnaires, etc. Et ça fait marcher quand même l'économie locale, parce que pour nous, 300 millions de dollars par mois, c'est quand même une somme importante.
Mais ce que vous dites, c'est que c'est ces subventions extérieures, c'est ces perfusions d'argent qui font que ça marche.
Surtout,
c'est pas de la richesse
non,
produite ici.
C'est pas l'investissement privé d'ici, et surtout, c'est pas l'investissement de la diaspora. Vous avez l'autorité palestinienne, c'est un sous-traitant de l'occupation, vraiment. C'est ça. payés par l'Europe et les États-Unis parce qu'ils ont la lâcheté, l'hypocrisie qui fait qu'ils ne veulent pas confronter Israël. Ils ne veulent pas le faire. Si les Israéliens décident, par exemple, de laisser un peu les Palestiniens respirer, pour au moins créer de Ramallah une simple vitrine, pour montrer, peut-être essayer de montrer au monde que ouais, l'occupation, en fin de compte, n'est pas si mal que ça,
oui.
Je vous conseille sérieusement d'aller voir ailleurs en Cisjordanie, parce que Ramallah ne représente rien à la Cisjordanie, et encore moins, beaucoup, beaucoup moins, Gaza, Jérusalem-Est et la Palestine.
C'est ça. Occupation, colonisation, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, ce qu'on a sous les yeux, y compris votre bureau, y compris tout ça, ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre si les Israéliens le décident.
Ça peut.
C'est-à-dire qu'ils maîtrisent l'électricité, l'eau, absolument les télécommunications, absolument toutes les ressources.
Nous sommes un excellent marché pour les Israéliens. Nous sommes le deuxième partenaire commercial le plus important d'Israël après l'Europe. Donc, et aussi nous sommes otages.
C'est un marché captif, on appelle ça.
C'est tout à fait pas captif, c'est tout à fait captif, parce que bon, ce sont les Israéliens qui imposent ce qu'ils veulent, en fin de compte. C'est la vitrine, c'est pour, parce que bon, les payeurs de fonds, surtout les États-Unis, les Européens, ils ont besoin de montrer que voilà, les choses changent,
voilà
ça bouge,
avec notre argent.
Voilà, ça évolue, c'est mieux.
C'est-à-dire
voilà.
Qu'on vient faire, un...
On ne fait rien sur le plan politique, on ne peut pas donner la liberté aux Palestiniens, enfin on va vers un cage doré, voilà, pour dire, voilà, l'Union européenne fait quelque chose. Vous n'allez pas voir vraiment redémarrage réel du secteur privé tant qu'il y a l'incertitude politique, tant qu'il y a l'occupation et la colonisation. Sans solution politique, on ne pourra jamais, jamais parler d'un développement durable en Palestine. Ça ne peut pas se faire.
Premier groupe palestinien de télécommunications, Paltel est aussi la plus grosse société cotée à la bourse palestinienne.
Euronews, 9 septembre 2011.
Le marché s'est beaucoup développé ces dernières années, constate son directeur général. Mais les perspectives de développement sont limitées par le contexte politique.
Les accords politiques avec Israël donnent le droit aux autorités israéliennes de définir le spectre électromagnétique dans les territoires palestiniens. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas accès aux fréquences de troisième génération. Si quelqu'un a un téléphone portable, un iPhone ou un BlackBerry, il ne peut s'en servir que pour les mails, pas pour surfer sur le net ou toute autre utilisation, parce que les fréquences sont limitées. De plus, les commutateurs de notre société de téléphonie mobile sont tous localisés à l'étranger, ce qui complique notre tâche. Nous sommes un groupe bénéficiaire qui gagne de l'argent, mais ce type de restriction entraîne un manque à gagner.
Ramallah, une cage dorée. À Ramallah, les conversations, c'est « Ah là là, j'ai trop bouffé, je suis en train de grossir, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors que dans tout le reste de la Cisjordanie, ce n'est pas la question de maigrir, c'est la question de survivre. C'est une tension et un paradoxe énorme qu'on va découvrir et qu'on va donner la mesure dans les reportages suivants. Pour l'instant, on est avec Ahmed Aouaida, cet étonnant patron de la bourse de Palestine Exchange à Ramallah, qui a une lucidité étonnante sur la situation de son pays, de sa ville et de son business.
La continuation de la situation actuelle n'est pas du tout dans l'intérêt d'Israël. Avant que ce soit dans l'intérêt des Palestiniens, c'est dans l'intérêt d'Israël. Vous pouvez imaginer l'impact que la paix avec 59 États islamiques, 1,5 milliard de musulmans, pourrait apporter à l'économie israélienne. Est-ce que vous pouvez penser combien des relations économiques normales avec une vingtaine de pays arabes, 350 millions d'habitants, dont des pays très très riches comme l'Arabie Saoudite et les autres pays de Golfe, pourrait apporter à l'économie israélienne? Je pense non, que les avantages de la paix seront beaucoup, beaucoup plus intéressants pour l'économie israélienne que l'investissement dans la sécurité et la high-tech d'aujourd'hui. Israël, aujourd'hui, quand même, se sent prisonnière dans sa propre région. Pourquoi dépenser autant d'argent sur les militaires? Pourquoi, quand Israël n'est plus capable à fournir le minimum acceptable pour ses propres citoyens? Le jour où les Israéliens commencent à se poser les questions sur le coût de l'occupation, le coût de la colonisation, ça serait une très bonne chose pour Israël. Et pour les Palestiniens, bien sûr. Mais c'est ça le problème. Le problème, je crois, réel, que les Israéliens ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'un État palestinien indépendant à côté d'Israël. Et en même temps, ils ne veulent pas d'un pays laïque unique pour tout le monde. Alors, ce qu'ils veulent, que les Palestiniens vont vivre dans des pantoustans, dans un pays sur un régime d'apartheid comme l'Afrique du Sud, ben nous n'accepterons ça jamais. Jamais nous accepterons ça. Mais que les Palestiniens restent soumis ou qu'ils vont voir ailleurs, nulle part. Nous restons ici et nous n'accepterons plus jamais de vivre comme ça. Nous n'accepterons pas que vivre comme ça, c'est notre destin historique. Que les peuples palestiniens, par destin, par un faute d'histoire, sont voués à vivre comme ça, pour toujours.
Et qu'est-ce que vous faites de Jérusalem? Parce que quand on voit Ramallah se développer, comme là on le voit sous nos yeux, hein, si on est dans votre bureau, on a une vue imprenable sur Ramallah. Et quand on voit Ramallah se développer, on sait que les Palestiniens veulent Jérusalem Est comme leur capitale, parce qu'il y a une raison à cela, une raison historique, une raison donc politique. On peut très bien vous dire, attendez, vous avez Ramallah maintenant. Laissez-nous Jérusalem et prenez Ramallah.
L'église de Saint-Sépulcre n'est pas à Ramallah, elle est à Jérusalem. Et les mosquées de l'Aqsa n'est pas à Ramallah, elle est à Jérusalem. Donc, les lieux saints...
Ça peut être un lieu de pèlerinage.
Non. Les lieux saints qui définissent une façon partie intégrale de notre identité ne sont pas à Ramallah, sont à Jérusalem. Notre attachement identitaire et émotionnel, national... Et surtout basé sur Jérusalem, Jérusalem-Est, bien sûr.
Comment, une autre question.
La raison pour laquelle la bourse est aujourd'hui à Ramallah, la raison pour laquelle l'Arab Bank, ici, vous voyez le siège de l'Arab Bank, il y a juste une seule raison que c'est ici et ce n'est pas à Jérusalem. C'est que les Israéliens nous interdisent de le construire à Jérusalem. Moi, ce serait interdit pour moi de monter le bureau de la bourse palestinienne à Jérusalem-Est. Ils vont le fermer tout de suite. Comme ils ont fermé toutes les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est en 2005, je pense.
PalestineIsReady.com. Autre chose complètement différente. Comment vous avez vécu et perçu la révolution arabe en Tunisie et puis en Égypte? Quelle influence ça a sur les Palestiniens?
Énorme. C'est un soulagement. Le printemps arabe, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la cause palestinienne. Parce que finalement, l'opinion publique arabe va compter pour quelque chose. Et dans les pays arabes eux-mêmes, et dans les capitales européennes, américaines, etc. Et finalement, ça compte pour quelque chose. Israël ne pourra jamais continuer comme avant maintenant. La donne a complètement changé. Hein. L'impunité d'Israël... Aujourd'hui, Israël n'a plus le choix de faire un truc comme plombe durcie, avec un chèque blanc de la Maison Blanche et de l'Europe, presque tout le monde. Hein. Parce qu'eux, ils doivent se rendre compte que la situation stratégique change. Et heureusement, pour une fois, ça change en faveur de la cause palestinienne. Donc non, c'est très bien d'être palestinien aujourd'hui. C'est même mieux qu'être israélien. C'est moi j'ai de la peine pour eux. Au moins, nous, on prend l'initiative. On sait exactement ce qu'on veut. On sait exactement où on va. On a quand même des réponses très précises. Eux, ils vont droit au mur, ne savent pas où ils vont, ne savent plus ce qu'ils veulent. Et ça, c'est assez pénible et c'est dangereux pour Israël. Avant que ce soit dangereux pour la Palestine. J'ai beaucoup d'amis israéliens, je connais pas mal d'Israéliens qui sont angoissés par ça. Parce qu'ils savent très bien que la politique de Netanyahou ne les amène nulle part. Qu'ils vont droit au mur.
C'est le cas de le dire, droit dans le mur.
Voilà.
Votre solution à vous, c'est quoi? C'est deux États? C'est un grand État?
Peu importe. Soit deux États vivant ensemble à côté l'un de l'autre, soit un État démocratique et laïque pour le monde, soit...
Un État démocratique et laïque pour tout le monde.
Avec tout le monde. Soit une confédération régionale, Jordanie, Israël, Palestine. Peu importe la formule finale. Ce qui est important, c'est que la relation actuelle doit changer. Hein. Les relations entre Palestiniens et Israéliens doivent être basées sur plus que justice, sur la liberté pour tous, sur l'égalité entre tous. C'est ça l'important.
لفيت ع بحر الميال شفيت ع بحر الميال عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب يلي على طول وقت شفيت ع بحر الميال عالمي اللي طيب تعرف
مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو القمر يجيب احلام والشمس راها تدي صح الايمان والامل مازال عندي ما لا تبسم من وجهك الدمعة محي خطر مهما كان نهار جديد راح يجي ان شاء الله.
Un État palestinien verra-t-il le jour et quand ? En tout cas, depuis des années, des années, des années, les Palestiniens s'accrochent. Et ces temps-ci, ces deux années dernières, trois années dernières, il y a eu un retournement étonnant avec une utilisation de la manne internationale, l'argent des bailleurs de fonds, pour produire cette vitrine étonnante qui est devenue Ramallah. Benjamin Barthes est journaliste, il est actuellement journaliste pour le quotidien Le Monde et il est l'auteur d'un bouquin sur Ramallah, il y a vécu de nombreuses années, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien, et il raconte dans ce livre l'histoire de cette ville, c'est une ville ancienne, et il raconte la, et ce devenir d'un espèce d'une sorte de petit Dubaï, pour la raison que le territoire étant confiné par l'entourage israélien, la seule solution, ben, c'est de grimper en hauteur, d'où ces buildings qui sont en train de monter. C'est pas encore Dubaï quand même, mais enfin, c'est une perspective. Et les grues partout autour de nous, je le disais en commençant, le souci qu'on a à Ramallah aujourd'hui, c'est comment maigrir. Mirage, miracle, Benjamin Barthes.
Actuellement, on est beaucoup dans l'artifice, on est beaucoup dans la fiction. L'armée israélienne peut débarquer à tout moment et la bulle spéculative, l'euphorie qui s'est emparée de Ramallah peut s'effondrer à tout moment parce que tout cela est très artificiel, tout cela est très lié à l'industrie de l'aide, à l'argent que les donateurs déversent par piscine entière sur la Cisjordanie.
Par piscine entière, voilà. C'est ça qui n'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que, vous dites, c'est un bantoustan doré. C'est-à-dire que Ramallah est la cellule VIP d'une grande prison qui s'appelle la Cisjordanie. Hein, c'est à peu près les termes.
Ça.
Alors, d'où vient l'argent ? Il faut absolument que vous nous disiez d'où vient l'argent de ce entre guillemets, développement et quel est le but politique de cette vitrine ?
L'argent, il vient de ce qu'on appelle les donateurs étrangers, principalement l'Union européenne, les États-Unis et quelques pays arabes. Dans les années d'Oslo, c'est-à-dire les années 90, la Palestine recevait quelque chose de l'ordre de 500 millions de dollars par an. À partir du début de la seconde intifada, en 2000, ce montant de l'aide est passé à 1 milliard de dollars. Et à partir des années, la fin des années 2000, il y a un véritable emballement. On arrive à un montant annuel d'environ 3 milliards de dollars en 2007-2008. C'est un montant inouï, inédit, dans les annales de la coopération internationale en général. Et 3 milliards de dollars par an ramenés à 4 millions d'habitants, ça fait quelque chose de l'ordre de, je crois, 700 dollars par habitant et par an. C'est pas rien du tout. Pour une population qui gagne quelque chose de l'ordre de 2000 shekels par mois, c'est-à-dire 500 euros. Donc c'est une somme très importante. Pour vous donner une idée, ça fait de la Palestine le pays le plus aidé par habitant de la planète. Et donc, ces pays européens qui essaient, à défaut d'avoir une action diplomatique décisive, qui se donnent un peu bonne conscience en déversant autant d'argent. L'autre raison, c'est également d'acheter une certaine paix sociale du côté des Palestiniens. Parce que c'est évident que quand on déverse autant d'argent, ça a un effet énorme, énorme sur la sphère sociale, sur la mécanique économique, etc.
PalestineIsReady.com. Benjamin Barthes, il y a quand même des personnages tout à fait étonnants. Je prends le président, directeur général de Palestine Exchange. C'est quoi donc ? C'est la bourse palestinienne. Et on rencontre un gars qui s'appelle Ahmed Awaida, qui est tout à fait charmant, sympathique, qui a une bonne tête de banquier. Mais qui
parle
est...
un français parfait.
Qui parle un français.
Appris à l'agence de la Société Générale à la Madeleine à Paris.
Mais il y a un paradoxe dans le discours de quelqu'un comme ça, qui est à la fois le banquier, la bourse, l'ultralibéralisme, etc. Mais qui en même temps est très proche de la cause palestinienne.
Oui, oui, oui. C'est l'emblème, ce Ahmed Awaida, qui est le directeur de la bourse palestinienne. C'est l'emblème de cette Palestine qui, d'une part, ne rougit plus d'afficher sa réussite sociale et sa réussite économique, et par ailleurs est persuadé que cette accumulation de réussite, cette accumulation de capital, peut contribuer, peut aider à la libération. Alors là-dessus, j'ai l'impression qu'il se berce un peu d'illusions. L'épidémie de création de restaurants et de cafés à laquelle on assiste à Ramallah, elle ne va pas faire fuir les colons. Ça ne va pas véritablement leur permettre de lever les barrages routiers, ça ne va pas leur permettre d'abattre le mur de séparation. Donc ce qui est quelque part un peu intriguant dans la situation actuelle, c'est que derrière cet enrichissement et derrière cette effervescence d'activité économique et sociale, il y a un grand désert politique. Il y a un déficit de réflexion, il y a un déficit de mobilisation, il y a un déficit d'organisation qui pourrait permettre de faire avancer un peu la cause palestinienne. Il y a quelque part, mais vraiment, véritablement, un désert en termes de mobilisation politique. Il y a comme ça une déperdition, je dirais, d'un idéal collectif, un affadissement, quelque part, de l'envie de réfléchir ensemble à un mode de libération et de mobilisation efficace.
Est-ce que ça veut dire que la cause palestinienne, le nationalisme palestinien, est en train de se dissoudre dans le fric, dans l'aide, dans la spéculation ?
Il y a de ça, c'est évident. Il y a une part d'apathie, enfin une énorme part d'apathie. Il faut se rappeler que tous les médias avaient spéculé sur un éventuel soulèvement palestinien à l'occasion de la démarche de Mahmoud Abbas devant l'ONU. Beaucoup d'observateurs, d'analystes agitaient le spectre de la troisième intifada, etc. Il n'y a rien eu de tout cela. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses. C'est évident qu'il y a une part d'épuisement. De vouloir, comment dire, rechercher une certaine
vivre
forme...
Vivre normalement, oui.
Voilà, une certaine forme de confort social et économique, c'est facilement compréhensible. Il y a une première intifada en 87, une deuxième intifada en 2000, et entre ces deux intifadas, et la situation et la vie est loin d'être très, très, très simple. Il y a inévitablement un besoin de reconstituer ses forces, etc., et éventuellement de passer le flambeau de la libération à la génération suivante. Mais par ailleurs... Il est évident qu'il y a une part de cette apathie qui est liée à la démobilisation, à la dépolitisation alimentée par l'industrie de l'aide. C'est évident. Il suffit de se promener dans Ramallah, de voir la frénésie d'activité qui se développe désormais dans le sillage de l'industrie de l'aide, pour bien comprendre que actuellement les Palestiniens ont davantage l'amélioration de leurs conditions de vie à l'esprit que la politique. Et l'amélioration de son standing social offre une alternative à la politique. C'est évident que ça va contribuer à entretenir cette apathie.
Merci à Benjamin Barthes. Je te rappelle le titre de son bouquin, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien. C'est aux éditions de la Découverte, indispensable pour comprendre l'évolution de la situation de la Palestine en général, de la Cisjordanie et tout spécialement de Ramallah. Merci aussi au boursier, banquier palestinien Ahmed Awaida. Un autre bouquin qui sort Palestine-Israël, un État, deux États, un ouvrage collectif sous la direction de Dominique Vidal, aux éditions Actes Sud. Et puis, surtout, n'oubliez pas, mercredi à 19h à la salle Olympe de Gouges, à Paris, dans le 11e arrondissement, 15 rue Merlin, métro Père-Lachaise, la nuit des rapaces, à l'initiative de Fakir. Et aussi de là-bas, si j'y suis, on va lutter contre la finance en fanfare avec Xavier Mathieu, les ex-Moulinets, avec Gérard Mordi, Nicolas Lambert, la compagnie Jolimôme, et bien d'autres invités surprises. J'oublie que ce reportage aujourd'hui était avec Guy Van Til, que vous aviez reconnu. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. Bertrand Chomton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis. On attend toujours vos messages, on les met de côté, tous ceux qui concernent la question du protectionnisme, et on fera prochainement une émission probablement sur ce sujet. Réclame.
Être le premier réseau social d'assurance, ça permet d'offrir à ses assurés une épargne solide, sûre, disponible et performante. Une épargne zéro tracas, zéro blabla et qui rapporte. Alors, qui c'est les clients ?
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent du 11 novembre au 3 décembre « Tout est normal, mon cœur scintille ». Un voyage cardiaque, drôle et émouvant, conduit par un Jacques Gamblin lumineux.
Est-ce que vous savez que le cœur de la musaraigne bat 800 fois à la minute et le cœur de l'éléphant 25 fois seulement ? Eh bien moi souvent je me demande qu'est-ce qui vaut mieux, être une musaraigne et vivre moins longtemps mais à fond, ou bien être un éléphant qui doit quand même traverser quelques moments d'ennui, non ?
Retrouvez Jacques Gamblin le 17 novembre à 11h dans Les Affranchis.
16h et quelques secondes sur France Inter. On retrouve Laetitia Gaillet pour les infos. Salut!
La TVA à 5,5 remontée à 7% dans la restauration et le bâtiment, la réforme des retraites accélérée, ce sont quelques-unes des mesures présentées ce midi par François Fillon pour lutter contre les déficits. Ce nouveau plan de rigueur va permettre de faire 7 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Par ailleurs, conséquence de l'indexation sur la croissance en 2012 et non sur l'inflation des prestations sociales, eh bien, un nouveau projet de budget de la Sécu va être présenté d'ici une quinzaine de jours. Il n'y aura pas d'enquête sur les sondages commandés par l'Élysée. La Cour d'appel de Paris s'y oppose aujourd'hui. Elle refuse d'ouvrir une enquête donc pour favoritisme concernant d'importantes dépenses de la présidence, et ce au nom de l'immunité pénale du chef de l'État. Ce que dénonce Mathieu Bonduel, le secrétaire général du syndicat de la magistrature.
Normalement, il y a un principe d'égalité des citoyens devant la loi. On fait des exceptions, et là on en fait une parce que c'est le président de la République et que le président de la République est élu au suffrage universel direct, qui plus est. Et là, le parquet vient nous dire il faut faire cette exception de manière plus large, et il faut que toutes les personnes qui travaillent au fond, sous ses ordres, soient concernées par cette exception. C'est tout à fait discutable. Ça veut dire que n'importe lequel des conseillers de l'Élysée peut commettre une infraction pendant qu'il est à l'Élysée, n'importe quelle infraction d'ailleurs, une infraction de droit commun ou une infraction qui est rattachée à l'exercice de ses fonctions, mais ça peut être n'importe quoi, et il aurait l'immunité pendant toute la durée de ses fonctions. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on a créé un statut pénal du chef de l'État, ou est-ce que c'était pour protéger seulement le président de la République élu par le peuple français ?
Des propos recueillis par Élodie Guéguin. Le gouvernement veut réduire par 10 l'exposition professionnelle à l'amiante. Les ministères de l'écologie et de la santé le font savoir cet après-midi dans un communiqué commun. Ça commencera dès l'an prochain et ça se fera en plusieurs temps. Cette décision fait suite en fait à une campagne de prélèvement menée sur 80 chantiers. Les résultats, dit-on, mettent en évidence des niveaux d'empoussièrement d'une ampleur inattendue. À la veille de la remise d'un rapport sur le nucléaire iranien, la France demande une nouvelle fois à Téhéran d'abandonner son programme. Selon plusieurs sources diplomatiques, le nouveau rapport de l'AIEA étaye les soupçons sur les ambitions militaires du programme iranien. Il faut tout faire pour éviter une intervention, a déclaré Alain Juppé. De son côté, Téhéran rejette par avance les nouvelles accusations de l'AIEA et met en garde dans la foulée les États-Unis et Israël contre une éventuelle attaque sur ses installations. Il ne dit rien, ne lâche rien, mais l'enquête avance. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant du septuagénaire placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane à Bellegarde dans le Gard. Il habitait à côté du domicile des parents de la fillette. Il est connu pour des agressions à caractère sexuel. 105 ans de prison, l'ancien chef militaire d'ETA, Javier García Gastelu, dit Zapote, a été condamné aujourd'hui par la justice espagnole pour l'assassinat d'un dirigeant socialiste. C'était en février 2000. Il l'avait fui à l'époque en France. On l'apprend aujourd'hui, des malfaiteurs ont dérobé plus de 700 000 jeux vidéo ce week-end lors de deux braquages. Ils ont quasiment eu lieu en même temps, au même moment, donc en région parisienne. Les braqueurs, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Banco, en une semaine intouchable, le film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano a réuni plus d'1 600 000 spectateurs. C'est le meilleur démarrage de l'année. La comédie avec François Cluzet et Omar Sy raconte la rencontre d'un riche tétraplégique avec un jeune homme décité. Vous écoutez France Inter, il est 16h et bientôt 4 minutes.
Demain soir sur France Inter, grande soirée Lulu Gainsbourg en direct du Casino de Paris.
Une soirée exceptionnelle présentée par Vanny et Didier Varro.
À partir de 21h, retrouvez Lulu Gainsbourg en live au Casino de Paris.
Écoute ma voix, écoute ma prière.
À l'occasion de la sortie de son premier album, From Gainsbourg to Lulu, Lulu Gainsbourg monte sur scène et réinterprète des titres de Serge Gainsbourg. En compagnie de M, Ayo, Sly Johnson.
Il y aura aussi Mélanie Thierry,
Danny,
Jane Birkin
et bien d'autres invités surprises.
Et à partir de 23h, juste après le concert, rencontre avec Lulu Gainsbourg, une heure de discussion tout en musique avec lui et ses amis artistes autour de la sortie de son album.
Grande soirée Lulu Gainsbourg, en direct du Casino de Paris.
Un événement à suivre demain soir sur France Inter, à partir de 21h.
France Inter.
La différence.
Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Kefelec, superbe pianiste. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et peut-être votre frère Yann, écrivain, qui serait sur la route. Mais enfin bon, s'il vient de Bretagne, ça va être un peu difficile. On va voir. Parce que vous donnez un spectacle ensemble, donc piano et puis récitant. Et ce sera mercredi qui vient, concert littéraire. C'est aux Notes d'automne au Perreux-sur-Marne dans le cadre des 3e rencontres musicales et littéraires en bord de Marne. Donc on va approcher le sujet de toute façon avec vous, on est déjà très content de vous avoir. Et je vais répondre à une autre belle personne qui a cité cette émission. Elle a dit celui-là c'est mon préféré. Moi je partage avec l'équipe qui me fait face derrière la vitre de la cabine. Donc Isabelle Huppert qui a dit voilà c'est mon préféré. Mais comme on n'est plus là le vendredi, quelquefois il y a confusion dans l'esprit de certaines personnes. Même Isabelle Huppert. Alors chère Isabelle, comme l'a corrigé d'ailleurs Philippe Bertrand un peu après, nous sommes toujours là, mais du lundi au jeudi cette saison et pas le vendredi. Le dimanche soir, les grands concerts de Radio France à 21h sur France Inter. Et si vous entendez ma voix, vous l'écoutez le samedi, c'est sur France Musique le soir. Et ce soir, par exemple, on va pouvoir enregistrer un concert pour France Musique. Et donc, c'est de 14 à 16h sur France Musique le samedi. Et je vais vous dire tout de suite, si vous êtes dans la région parisienne, je cherche mon dossier. Je peux vous inviter, chers amis, à passer nous voir parce qu'on va enregistrer un concert pour France Musique tout à l'heure. Et c'est évidemment gratuit dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à 18h30 dans le grand hall de la maison de Radio France. Il y aura Bertrand Chamaillot au piano, Nemanja Radulovic violon, Laure Favre-Kahn piano aussi, Gaël Solal guitare et le quatuor Vautier. Que du beau monde, je vous dis. Donc enregistrement aujourd'hui, comme presque tous les lundis du mois. Après le nouvel an, Noël, ce sera le deuxième parce qu'il faut se remettre un tout petit peu. Mais enfin bon, c'est le premier lundi en général, à partir de 18h30 dans le grand hall de la maison de Radio France. Et chère Isabelle Huppert, nous sommes bien là toujours du lundi au jeudi. À 16h sur France Inter. Voilà, pardon, chère Anne, mais il fallait préciser, parce que quand même, perdre une auditrice comme ça, ça aurait été dommage. Hein. Donc.
Mais on vous voudrait aussi le vendredi. Là. Je me permets de dire au passage.
Oui, mais voilà. Ben voilà, ok, merci. Merci. Chère Anne, donc ce mélange est assez naturel, puisque j'ai lu, par exemple, le bouquin de votre frère, à défaut peut-être de le voir aujourd'hui, mais enfin, il parle de sa mère, le piano de ma mère, et il raconte là que, de toute façon, il y avait de la musique dans votre maison, dans le 14e arrondissement,
oui.
Que vous jouiez tellement que, quelquefois, certains voisins devenaient hostiles, et au fond, votre frère, Yann, est en admiration totale devant votre musique, et d'ailleurs, son premier livre, c'était sur Béla Bartok.
Hein, donc oui, en effet.
Alors,
oui.
Ça n'est pas étonnant, vous associez ce mercredi pour un concert littéraire, ça va être comment, ça? Alors, vous jouez, évidemment, ça, je ne demande pas.
Voilà, je joue et je joue du piano, donc bien sûr. Et nous avons quand même choisi une thématique qui est autour de la mer et de l'eau. Là, donc, je vais jouer des pièces telles que Reflet dans l'eau, Une barque sur l'océan, Saint-François de Paul marchant sur les flots.
Je rappelle du Liszt et des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, et Debussy. Mais lui, il n'est pas... En fait, il ne va pas être véritablement récitant. Enfin, le mot de récitant ne convient pas. C'est très difficile de trouver d'ailleurs le mot exact. Oui. Intervenant, c'est quand même très lourd.
Oui.
Mais je pense que nous allons naviguer.
Oui, il serait là. Ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de décrire le personnage.
Voilà, il serait là.
Il prend sa place, toujours, sauf quand il n'est pas là, comme aujourd'hui. Mais bon, il va peut-être...
Mais c'est vrai que il va, c'est lui-même qui a écrit un texte qui va accompagner ses pièces et qu'il va certainement évidemment faire référence à des poètes, à notre père aussi qui avait beaucoup écrit sur la musique et on ne le sait pas parce que c'était dans le cadre de conférences également qui n'ont pas